76-79 sur le thème de la gouvernementalité. Et en particulier, je m'intéresserai à la question suivante, mais qui a directement, je crois, rapport avec votre thème. Qu'est-ce que ça signifie gouverner la société dès lors que la société ne peut plus être confondue avec l'État? J'aurais pour ma part une position critique à l'égard des positions de Foucault lui-même, dans la mesure, vous allez le voir, où je pense que toute la réflexion de Foucault, pour passionnante qu'elle soit, je tiens que tout ce qu'a écrit Foucault est absolument passionnant, témoigne d'une relative cécité à l'égard du problème de la normativité, et notamment du problème de la normativité juridique. Voilà. J'ai prévu, dans la mesure où j'ai cru comprendre que je ne m'adresse pas... moi, je suis un philosophe pur sucre, parfaitement ignorant, comme tous les philosophes, d'à peu près tout. J'ai cru comprendre que je m'adressais à un public qui n'est pas formé uniquement de philosophes. J'avais donc prévu une brève introduction historique, disons, sur le concept de société. Mais, je crois que je vais l'abandonner. Disons qu'il s'agissait de rappeler comment, je le résume en quelques phrases, si je peux, je prends le risque parce que quand on improvise, on est parfois souvent plus long que quand on suit un texte. Bon, mais je vais quand même, en gros, rappeler ce que je voulais faire dans cette introduction historique au concept de société civile. Historiquement, le mot société civile qui se décline dans les différentes grandes langues européennes, français, anglais, allemand, etc., est la transcription d'un terme, d'une expression qui vient d'Aristote, koinonia politikai, qui signifiait la société politique. Et on peut dire que jusqu'à une période avancée de l'histoire, le terme société civile signifie la société politique, et donc dans le contexte moderne, disons à partir de Hobbes, en gros, le terme signifie à peu près la même chose que État. Il se trouve que, en raison d'un certain nombre de transformations sémantiques pour une part, théoriques d'autre part, ce terme, dans le courant du XVIIIe siècle, a connu une transformation radicale de sa signification, au point que, et notamment à partir de Hegel, qui est le premier à avoir, pour ainsi dire, théorisé la distinction de la société civile et de l'État, la société civile devient, en quelque sorte, une réalité pour une part adverse de celle que représente l'État. De sorte que s'institue entre l'État et la société civile une relation dialectique qui comporte des moments d'extrême tension. Ça pose aussi, bien évidemment, des problèmes, et c'est là que je vais déboucher sur Foucault, des problèmes, en effet, si la société civile, fondée notamment sur les mécanismes d'autorégulation du marché et sur un type de rapport non hiérarchique et non statutaire entre les individus et les groupes sociaux, si la société donc n'obéit plus au même type de logique, disons, pour dire vite, la logique de la souveraineté, qui est celle de l'État moderne, alors comment l'État va-t-il pouvoir s'y prendre pour gouverner la société? Gouverner la société devient un problème dès l'instant que la société, précisément, et je crois qu'on en a vu un excellent exemple dans l'exposé précédent, dès l'instant que la société se distingue de l'État au point de devenir potentiellement une société mondiale, et évidemment le développement d'Internet là-dessus a donné des perspectives que Foucault lui-même n'a pas pu observer, enfin il n'a pas pu en observer le développement, mais je pense qu'il aurait eu des choses à dire là-dessus. Alors, j'en viens à Foucault et... Donc je vais faire à la fois une présentation et en même temps avancer certains éléments critiques à l'égard de cette théorie de la gouvernementalité qu'il a développée dans ses cours au Collège de France des années 76, 77, 78, 79. Là, je vais suivre mon texte de plus près, c'est plus prudent. Foucault, me semble-t-il, a hérité de ses adversaires marxistes, car le marxisme a toujours été, au fond, le grand adversaire de Foucault, même s'il ne l'a jamais dit aussi expressément. Il a hérité de ses adversaires marxistes et de son maître, Georges Canguilhem, ce que je crois être une sous-estimation tenace, durable, de la normativité juridique. Chez Foucault, la normativité est toujours plus ou moins ramenée à la normalité. Or, il me semble important de maintenir la différence entre l'un et l'autre. Et jusqu'à ce que, et là on verra que c'est un point très important qui a marqué une évolution très importante chez lui, évolution sans lendemain, parce qu'ensuite il s'est intéressé à autre chose, puis ensuite il est mort, mais c'est une évolution très importante. Jusqu'au moment où la découverte des thèses de ce qu'on appelle l'ordolibéralisme, une doctrine économique allemande, disons, qui a accompagné le développement de la RFA, qui a fourni l'assise théorique du développement de l'état social de droit dans la RFA de l'après-guerre. Jusqu'à ce que la découverte donc des thèses de ce qu'on appelle l'ordolibéralisme modifie ses vues sur ce point, il a aussi, me semble-t-il, constamment sous-estimé l'importance des institutions. Alors, je commencerai par une observation à propos de la thèse qui est formulée dans le cours de 1977, selon laquelle, je cite Foucault, « le vieux droit de la souveraineté a régné sans partage du Moyen-Âge, en gros, au XVIIe et même jusqu'au XVIIIe siècle ». Cette thèse, ce qui est remarquable, c'est qu'elle efface très intentionnellement la césure que l'on situe ordinairement aux alentours du XVIe siècle avec l'invention de la théorie proprement moderne de l'État. Foucault, fidèle à sa démarche de démasquer ou de dénoncer les approches communément reçues, écarte cela en disant non, non, pas du tout. Il est faux de croire que la modernité naît avec l'État souverain, quelque part entre Machiavel et Hobbes. En réalité, une telle présentation des choses, et on retrouve là cette orientation anti-juridique qui est le propre de Foucault, cette présentation des choses fait une part trop belle au droit dans la généalogie de la modernité. Pour Foucault, la véritable rupture avec le schéma juridique, c'est vrai, de la souveraineté, qui remonte d'après lui au Moyen-Âge, la véritable rupture s'opère au XVIIIe et XIXe siècle avec le développement d'abord des techniques disciplinaires qu'il étudie, notamment dont il étudie la mise en place dans « Surveiller et punir », puis de ce qu'il appelle dans ses cours au Collège de France la biopolitique ou la biopolitique des populations, mais aussi la mise en cause du paradigme juridique est liée aussi à la constitution, pardon, d'un paradigme économique qui en est en quelque sorte alternatif et qui va contester la domination du paradigme juridique qui s'était imposé à la pensée moderne, à la pensée politique moderne. On pourrait dire donc, Foucault le fera d'ailleurs de manière explicite dans le cours de 1979, que c'est la naissance d'une société civile, non pas d'abord à côté, mais au sein de l'État, et pour une part et de plus en plus contre lui, qui signe la péremption de la théorie classique de la souveraineté. De fait, c'est bien ce qu'on appelle aujourd'hui le social, et non pas le politique, qui est le terrain des technologies disciplinaires analysées par Foucault dans Surveiller et punir, et d'autre part, de ce qu'il nomme, il invente le terme, la biopolitique. En elle, je veux dire, dans la société, se développent des figures... Non, alors, il est évidemment faux de croire, Foucault ne cesse de le dire, que la société, c'est le domaine de la liberté par rapport à l'État qui serait le domaine du pouvoir ou de l'empire. Non, bien sûr que non. Mais dans la société se développent des figures non étatiques et, c'est un point d'ailleurs que je critiquerai pour une part, non juridiques du pouvoir, des formes de pouvoir qui sont irréductibles au schéma illustré par la théorie standard du contrat social, telle qu'elle se développe, disons, de Hobbes à Rousseau et même encore au-delà. Je ne prétends pas que, pour Foucault, la société de discipline ou la gestion biopolitique des populations représente un mieux par rapport à ce qu'il appelle, notez la nuance de mépris toujours présente, le vieux schéma juridique. À bien des égards, et il aurait dit la même chose à propos de l'Internet et certainement, et à propos du développement de la thématique de la confiance, à bien des égards, ce sont des formes d'asservissement nouvelles et insidieuses, insidieuses car moins visibles, que ceci favorise. En même temps, d'ailleurs, Foucault analyse toujours les choses en balance, d'un côté, des nouvelles techniques d'asservissement, mais d'un autre côté, des nouvelles formes de libération. Par exemple, tout ce qu'il analyse dans Surveiller et Publier, sous le label des illégalismes. Bon, alors là aussi, Internet, là-dessus, offre une série d'exemples auxquels il n'a pas pu se consacrer, bien sûr, de développement des illégalismes comme inscrits dans une certaine économie de pouvoir qu'il s'agit de contester, mais aussi d'une certaine manière de conforter de l'intérieur. Mais ce développement d'une société et des nouvelles techniques d'asservissement et donc de lutte contre l'asservissement qu'elle connaît atteste pour Foucault l'impossibilité définitive, avérée pour lui, de penser la société à partir du droit. La régression du juridique, c'est une citation, dont Foucault croit devoir faire le constat, n'est au fond que la révélation tardive pour lui, que la révélation tardive d'une vérité inaperçue, à savoir que les, citation, grandes structures juridico-politiques d'une société, y compris, j'y insiste, les droits de l'homme, ne sont jamais un principe d'explication suffisant. Le propos a très clairement une visée démystificatrice. À l'heure où se développe des cours des années 70, à l'heure où se développe le culte des droits de l'homme, il s'agit d'indiquer que ces droits ont un prix, et ça Foucault le dit très clairement dans ses cours, le prix à payer pour les droits de l'homme, c'est l'instauration d'une société disciplinaire. Il y a un lien évident pour Foucault entre la thématique des droits de l'homme et le développement d'une société qui n'est plus une société de souveraineté, mais, et ce n'est pas forcément mieux, une société disciplinaire. Mais, outre que, me semble-t-il, l'exacte corrélation des deux phénomènes, société disciplinaire, droits de l'homme, n'est pas véritablement montrée, en tout cas dans le cours où il fait cette analyse. La réflexion qu'il va faire un peu plus tard, en 79, sur la société civile est une réponse partielle à l'objection que je suis en train de formuler. Il convient de se demander si, et c'est une question que je pose à Foucault, on aura du mal à répondre, il convient de se demander si, de ce que les droits de l'homme ne méritent peut-être pas la dévotion un peu naïve dont ils font parfois l'objet, on doit néanmoins forcément en conclure à la péremption du droit comme système de normativité offrant un référentiel à l'État, mais aussi, peut-être, à la société. J'en viens maintenant, rapidement, aux institutions. Pour définir d'un mot ce concept, les institutions, dans la perspective des courants que l'on appelle institutionnalistes, et auxquels Foucault n'appartient pas du tout, les institutions sont, parce qu'elles sont pour ainsi dire toujours déjà là, ce qui assure non pas seulement la cohésion entre l'individu et une totalité dont il est membre, mais leur constitution conjointe. Les institutions ne sont pas des artefacts, des choses que l'on a fabriquées, mises en place, mais comme l'a dit un des plus grands représentants de la pensée institutionnaliste, le juriste français Maurice Auriou, il a utilisé cette expression qui est très frappante. Les institutions sont, dit-il, des couches géologiques, une sorte de socle archaïque sur lequel prennent appui, comme s'il s'agissait d'une nature, les mœurs, les croyances, les pratiques dont l'entrelacement constitue le champ de l'agir. les institutions sont pour nous des quasi-choses. Elles sont là comme éternelles, évidentes parce que présupposées par les gestes quotidiens qui sont les nôtres. Les institutions, dit Orion, c'est une allusion évidente à Hegel, un clin d'œil à Hegel, les institutions mettent en œuvre ce qu'il appelle une raison objective. Alors, chez Foucault, à coup sûr, aucune trace d'institutionnalisme. Au contraire, il critique avec vigueur, mais on verra qu'il y a un changement dans le cours de 79 quand il découvre les théoriciens ordolibéraux allemands qui vont, curieusement, le convertir, entre guillemets, à l'institution. Mais avant cela, Foucault, au contraire, critique ce qu'il appelle l'institutionnalocentrisme. Il réclame, dans le cours, je ne sais plus si c'est de 77 ou 78, que l'on, je cite, « passe derrière l'institution pour retrouver précisément, en passant par derrière, la vérité dont elle est l'habillage. Cette vérité, eh bien, c'est d'être une technologie de pouvoir ou, et c'est là que le mot apparaît pour la première fois, une gouvernementalité. » Cet affect anti-institutionnel chez quelqu'un comme Foucault, cet analyste si perspicace qui, de l'asile à l'hôpital et à la prison, voilà des beaux exemples d'institutions quand même, a si finement décrypté les relations de savoir et de pouvoir que mettent en œuvre les institutions, cet affect anti-institutionnel est certainement un effet de la défiance profonde qu'il éprouve envers ce que, non pas lui, mais Lyotard a appelé les grands récits, et notamment envers, ça c'est une des bêtes noires de Foucault, incontestablement, le grand récit hegélien. Car l'institution, au fond, c'est l'esprit objectif. C'est ce que Hegel appelait l'esprit objectif. Et c'est bien parce que Foucault ne veut pas entendre parler de quoi que ce soit de tel qu'il entend, comme il le dit, contourner l'institution. Sur ce point, pourtant, et je l'ai annoncé il y a un instant, un virage spectaculaire est opéré dans le cours de 1979, intitulé « Naissance de la biopolitique ». Tout comme elle le réconcilie, c'est schématique, j'en conviens, avec le libéralisme, la lecture des penseurs ordo-libéraux allemands, qui sont tout sauf anti-institutionnalistes, paraît réconcilier Foucault avec l'institution ou les institutions, sans pourtant qu'il éprouve le besoin de revenir sur ses affirmations très critiques, je viens d'en citer quelques exemples, faites pas plus tard que l'année précédente. On lit par exemple désormais que dans la perspective des ordo-libéraux qu'il commente, notamment le plus connu d'entre eux, Walter Eucken, qui a joué un rôle fondamental avec Ludwig Erhard dans la mise en place de l'état social de marché tel qu'il s'est développé dans la République fédérale des années 60, on lit par exemple, donc Foucault dit que dans la perspective de l'ordolibéralisme, je cite Foucault, ce qui échappe à la théorie économique, c'est l'institution. Alors évidemment, il suffit de lire Walter Eucken ou, il en est proche à bien des égards, Friedrich Hayek, pour s'apercevoir que le concept d'institution que mobilisent leurs analyses est très différent de celui sur lequel portait la critique de Foucault. Toujours est-il que celui-ci, et c'est un manque, n'entreprend pas la révision du concept d'institution qui lui permettrait de rendre compatible, je crois que c'était possible, mais il ne l'a pas fait, la critique qu'il faisait encore en 1978 des institutions, il faut passer derrière, il faut contourner l'institution, et la valorisation qui découle un an plus tard de sa lecture des penseurs ordo-libéraux. On se plaît à imaginer ce qu'eût pu être sous la plume de Foucault, une analyse du marché comme institution, une analyse qui aurait combiné les ressources de la microphysique du pouvoir, comme l'appelle Foucault, le marché entendu comme technologie de distribution différentielle des individus et d'allocation, elle aussi différentielle, des ressources, et combinant donc les ressources de la microphysique du pouvoir comme technique de démasquage, si l'on veut, des relations de pouvoir inaperçues qui se jouent là où on ne les voit pas de prime abord, et d'autre part, celle du libéralisme comme entendu comme un nouvel art de gouverner, un art de gouverner qui n'est pas seulement disciplinaire, ou encore, c'est le terme que Foucault emploie, comme un lieu institutionnel de véridiction, de production de la vérité. Alors, il me semble qu'il existe une corrélation entre l'anti-juridisme et l'anti-institutionnalisme de Foucault. L'un et l'autre, enfin, anti-institutionnalisme qu'il révise pour partiellement donc dans le cours de 1979, naissance de la biopolitique, l'un et l'autre, l'anti-juridisme et l'anti-institutionnalisme, peuvent être mis au compte de la difficulté qu'il éprouve, me semble-t-il, à prendre en considération, à prendre au sérieux le problème de la normativité. Tout se passe comme si chez lui, ce qu'il nomme l'analyse des micropouvoirs ou des procédures de la gouvernementalité, la généalogie des rationalités de l'État ou du marché, en tant que méthode de déchiffrement, comme il l'appelle, des pratiques sociales, tout se passe comme si tout cela avait rendu impossible la prise au sérieux des questions normatives et institutionnelles. C'est ce qu'a relevé, à mon avis, à juste titre, je ne suis pas toujours avec lui, Jürgen Habermas, qui, dans le discours philosophique de la modernité, note que l'impasse que fait Foucault sur ce que Habermas nomme le jeu de langage normatif le rend incapable de saisir ce que lui-même, Habermas, nomme le contenu normatif de la modernité. C'est pourtant ce que Foucault, sur le tard, s'est efforcé de faire dans le cours sur la biopolitique en 1979. Je vais en parler donc maintenant un peu. Il y a, je crois, quelque chose de tout à fait fascinant dans la manière dont Foucault aborde et déplace dans ses cours de 78 et 79, honneur. non, mais on y arrive aussi. C'est d'ailleurs beaucoup plus cohérent, donc on devrait faire la même chose. Foucault, donc, dans ses cours, aborde et déplace la question philosophique traditionnelle de l'État au moyen de la thématique nouvelle, il l'introduit dans ses cours, de la gouvernementalité. Cette thématique était encore absente du livre « Surveiller et punir », publié en 1974, où sont pourtant étudiées les transformations récentes, si l'on peut dire, enfin, 19e siècle, de l'économie du pouvoir. Mais là encore, une question se pose. En l'absence d'un horizon normatif dont la pertinence est absolument récusée par Foucault, le positivisme heureux du généalogiste des pratiques, je fais référence à un article de presse célèbre, d'une interview célèbre, où Foucault déclarait « Je suis un positiviste heureux ». Sous-entendu, je n'ai pas besoin de l'arrière-fond des grandes constructions destinées à légitimer, à justifier, par exemple, théorie du droit naturel, etc., etc., etc. En l'absence d'un horizon normatif dont il récuse la pertinence, le positivisme heureux de Foucault permet-il de pallier le défaut revendiqué d'une théorie de l'État dont Foucault nous dit, je cite, « qu'on doit en faire l'économie comme d'un repas indigeste ». Pourtant, s'il refuse évidemment de proposer une énième théorie générale de l'État, Foucault n'en a pas moins à son propos un certain nombre de convictions, que je vais évoquer rapidement, car elles commandent négativement la thématique nouvelle de la gouvernementalité. La première de ces convictions est, je cite, « qu'il faut relativiser l'État ». Cela signifie d'abord qu'il faut le considérer non pas comme quelque chose dont il serait possible de penser l'essence ou l'eidos, citation, « l'État n'a pas d'essence », c'est dans le cours, mais comme un réseau de pratiques, citation un peu plus longue, « l'État, c'est une pratique. L'État ne peut pas être dissocié de l'ensemble des pratiques qui ont fait effectivement que l'État est devenu une manière de gouverner, une manière de gouverner. Toute la méthode du généalogiste que veut être Foucault est là. Il faut, nous dit-il, écarter les universaux et prendre pour guide, je cite, la pratique telle qu'elle se réfléchit et se rationalise. Pour autant, il ne s'agit pas de se cantonner à une simple description des pratiques dont on admet qu'elle relève de ce que l'on appelle l'État. La généalogie, c'est autre chose que la description. C'est pour ça que le positiviste qu'est Foucault n'est pas un positiviste vulgaire. C'est ce qui permet à Foucault de proposer d'ailleurs une typologie des formes successives d'État ou, comme il le dit, des grandes économies de pouvoir en Occident. C'est un point, je vais laisser là une partie, c'est un point sur lequel très curieusement on pourrait faire un rapprochement et je pense que ça peut être fondé sur la lettre même des textes, très curieux à première vue, entre Foucault et Carl Schmitt. Mais je n'en parlerai pas ici plus tôt, je suis persuadé pour ma part que Foucault a lu Carl Schmitt et qu'il y a des rapprochements très intéressants, notamment à propos de cette idée qu'il faut penser le politique en se déprégnant du modèle, en se défaisant du modèle de l'État. Non pas penser le politique à partir de la forme particulière qu'il a fait dans le cadre de la souveraineté étatique moderne, mais de manière plus large, et la convergence se fait aussi sur le thème que l'essence du politique, si l'on peut dire, c'est la conflictualité. Je laisse ceci de côté pour en venir à la gouvernementalité ou aux gouvernementalités. Cette création verbale de Foucault, qui apparaît dans le cours de 78 et qui est développée dans le cours de 78 et 79, est destinée à souligner ce cas de spécifique, l'approche de l'État, non comme une essence, mais comme une pratique. Foucault, toutefois, hésite, à mon avis, entre deux conceptions de la gouvernementalité, qu'on peut dire une conception étroite et une conception large. Selon la conception étroite, la gouvernementalité désigne, le motif de la gouvernementalité désigne l'émergence d'une forme tout à fait spécifique et tout à fait moderne, on pourrait même dire contemporaine, du pouvoir politique qui tend à se substituer aux figures classiques du pouvoir souverain. En ce premier sens, restreint donc, le problème de la gouvernementalité est un problème contemporain, voire un problème postmoderne. Foucault écrit par exemple « Tant que la souveraineté était le problème majeur, l'art de gouverner ne pouvait pas se développer de manière spécifique et autonome. » Donc selon cette première ligne d'analyse, mais il y en a une autre, la gouvernementalité désigne une technique spécifique et nouvelle d'exercice et de gestion du pouvoir qui s'est mise en place de façon concomitante avec la crise du vieux, il emploie toujours cet adjectif, du vieux modèle de la souveraineté, et qui trouve son apogée, ce développement de la gouvernementalité, dans le développement des disciplines, 18e siècle, et de ce qu'il appelle maintenant le biopouvoir, à partir du 19e et surtout au 20e siècle, dans ce qu'il faut appeler maintenant un état de gouvernement, qui n'est plus la même chose que le vieil État souverain. L'insistance sur le modèle du gouvernement traduit alors la transition capitale, du point de vue de Foucault, d'une approche juridique et essentialiste du pouvoir, la souveraineté, à une approche que l'on peut dire physique et politique, non pas du pouvoir, mais des rapports de pouvoir. Mais il y a une autre ligne d'analyse, plus englobante, qui d'ailleurs tend progressivement à s'imposer dans le texte de Foucault, et qui pour ma part m'apparaît moins féconde. La gouvernementalité n'est, dans cette seconde perspective, pas simplement une modalité particulière post-souverainiste, si j'ose dire, du pouvoir. Ce terme désigne plutôt un point de vue ou une manière, en quelque sorte, transhistorique d'analyser les rapports de pouvoir ou de pouvoir-savoir, comme le dit Foucault, de plus en plus dans ses cours, qui existent, en toute société. Exemple de cette conception très élargie de la gouvernementalité, citation, « Ce que j'ai proposé d'appeler la gouvernementalité, c'est-à-dire la manière dont on conduit la conduite des hommes, n'est pas autre chose qu'une proposition de grille d'analyse pour les relations de pouvoir. » Là, le propos prend une signification extrêmement générale. Une méthode d'analyser les relations de pouvoir urbi et orbi, en quelque sorte. Donc Foucault hésite, à mon avis, entre une conception qu'on peut dire restreinte et une conception généralisée de la gouvernementalité. Je crois, pour ma part, que la théorie restreinte de la gouvernementalité est moins aventureuse, donc celle qui en fait une propriété des relations de pouvoir ou de pouvoir-savoir telles qu'elles se développent dans l'époque contemporaine, comprise comme une époque, si l'on veut, post-étatique, une époque donc où la société devient un lieu de développement de techniques de pouvoir qui ne passent plus par l'État. Il me semble, pour ma part, que la théorie restreinte est moins aventureuse et surtout plus féconde, sans doute, que la théorie générale de la gouvernementalité que Foucault hasarde, si je puis dire, dans ses cours. Car ce concept restreint, ce qu'il y a d'intéressant dans ce concept restreint de la gouvernementalité, c'est qu'il pointe, il met l'accent sur un phénomène important qui est le débordement par la politique du contexte, du cadre étatique dans lequel la modernité l'avait circonscrit. Le politique déborde de l'étatique et c'est cela que vise à analyser et à caractériser la théorie foucauldienne de la gouvernementalité. Et c'est ce qui a conduit Foucault, ça sera la fin de mon exposé, à s'intéresser, de façon totalement surprenante à première vue, à s'intéresser dans le cours de 1979, naissance de la biopolitique, au néolibéralisme contemporain, conçu comme, je cite son expression, elle est très intéressante, une politique de société, et non plus comme une idéologie d'État. Puis, à ce qu'on peut appeler, en le paraphrasant, mais ça sera ses ultimes travaux, à ce qu'on peut appeler, il n'emploie pas le terme, c'est moi qui l'utilise, une politique de soi, qui est aussi une pratique de soi, et ça, c'est les derniers travaux de Foucault sur la genèse de l'individualité et de la subjectivité. En revanche, la théorie générale de la gouvernementalité se borne finalement à rappeler ce que tout lecteur de Foucault savait de longue date, à savoir qu'en ce domaine, comme en tout domaine, l'étude des discours doit être subordonnée à celle des pratiques. Ce sont les pratiques qui nous disent la vérité et non pas les discours qui sont censés encadrer ces pratiques et qu'il convient au contraire de démasquer par une analyse des pratiques. Mais ça, ce n'est pas nouveau d'une certaine manière. C'est tout Foucault, depuis le début, depuis l'histoire de la folie. Ce que Foucault veut nous apprendre à penser à l'encontre des doxographes, pardon, c'est ce qu'il appelle l'État comme manière de faire, l'État comme manière de penser, et non pas comme doctrine. Le virage qui s'opère dans l'œuvre de Foucault avec le cours de 1979, virage pourtant sans lendemain, puisque je viens de le rappeler, ces dernières années seront consacrées, il n'avait pas prévu ce virage, à arpenter un autre terrain, le terrain de ce qu'il va appeler les conduites de soi, auxquelles il va consacrer ses derniers travaux, hein, la volonté de savoir. Ce virage qui s'opère avec le cours sur naissance de la biopolitique est très, extrêmement important. Alors qu'il annonçait, c'est vrai, depuis plusieurs années, une réflexion sur quelque chose qu'il nommait, mais le contenu n'était pas encore très clair, le biopouvoir ou la biopolitique, entendu comme, je cite la définition qu'il en donnait dans le cours « Sécurité, territoire, population ». Il définit ainsi la biopolitique, c'est, dit-il, ce qui fait entrer la vie et ses mécanismes dans le domaine des calculs explicites et fait du pouvoir-savoir un agent de transformation de la vie humaine. Eh bien, alors qu'il annonçait donc depuis des années une réflexion là-dessus, sur cette biopolitique ainsi définie, Foucault découvre en chemin qu'il lui faut préalablement, mais ce préalable va l'occuper toute l'année, tout ce qu'a duré, c'est vrai que les cours au Collège de France, ça ne dure pas longtemps, son cours de 79, qu'il lui faut préalablement rendre compte du discours théorique qui accompagne et encadre, pour ainsi dire, le passage à la gouvernementalité libérale qui règne dans la société, née de la décomposition des formes classiques du gouvernement, c'est-à-dire le modèle de la souveraineté, bien sûr, mais aussi, d'une certaine manière, le modèle disciplinaire qu'il analysait, avec quel brio, dans « Surveiller et punir ». ce discours est celui du libéralisme, ou plus exactement du néolibéralisme, que Foucault va étudier dans ce cours sous ces deux, dans ces deux principaux courants. D'un côté, et c'est surtout de cela qu'il parle à vrai dire, c'est la partie la plus intéressante, l'ordolibéralisme allemand, qui correspond à ce que l'on appelle l'école de Freiburg, formée autour donc de ce type que j'ai déjà nommé tout à l'heure, Walter Eucken, et par ailleurs de quelqu'un qui est très inconnu en dehors de l'Allemagne, mais enfin dans presque chaque ville allemande, il y a une rue qui porte son nom, Wilhelm Röpke. Ce sont ces deux économistes qui ont, dans une certaine proximité d'ailleurs avec quelqu'un qui lui est connu encore aujourd'hui, Franz Josef Strauss, développé les thèses et la doctrine de l'économie sociale de marché. Et d'autre part, deuxième aspect, mais moins étudié, le néolibéralisme américain, c'est-à-dire, et ça c'est beaucoup plus connu, ce que l'on appelle l'école de Chicago, dont la figure de proue est bien sûr Milton Friedman. Le trait d'union, je le note au passage, entre ces deux courants, il existe, c'est ce que l'on a appelé l'école autrichienne, avec ses deux grands représentants, Ludwig von Mises, d'une part, et d'autre part, Friedrich Hayek, qui tous les deux ont émigré en fuyant le nazisme, respectivement en Grande-Bretagne et aux États-Unis, mais qui ont continué à conserver des liens très étroits avec leurs collègues allemands, et notamment avec les ordo-libéraux. Friedrich Hayek, après sa retraite, a continué à enseigner régulièrement à Freiburg. Foucault, c'est quelque chose à quoi il ne nous a pas accoutumé, ce grand dénonciateur des discours et de ce qu'il recèle à l'insu souvent de leurs auteurs. Foucault éprouve une évidente fascination pour cet objet nouveau qu'est le discours néolibéral. Tout se passe ici, ou peu s'en faut, comme si la généalogie se faisait apologie. Et c'est très surprenant quand on sait qui est Foucault, d'où il vient, ses engagements situés plutôt à l'extrême gauche, etc., etc. Existerait-il, il faut se poser la question, une affinité profonde entre Foucault et entre la pensée de Foucault et son nouvel objet, le néolibéralisme? Sa pensée ne se découvre-t-elle pas elle-même au rebours de son image commune et de la conscience de soi qui était celle de Foucault antérieurement à cette découverte, comme une pensée authentiquement libérale? Je n'irai pas jusqu'à dire cela, Foucault. Certains l'ont fait. Foucault, au fond, il s'est découvert tardivement, mais c'est sa véritable nature, c'est un libéral. Je n'irai pas jusque-là, je ne crois pas qu'on puisse le dire, mais, en tout cas, de la logique même de son propos, découle, me semble-t-il, la chose suivante. S'il y a lieu d'accorder une pertinence à une notion confuse, chacun en conviendra, surdéterminée, comme celle de liberté, cela ne peut se faire qu'en suivant l'une des deux voies possibles dans le contexte moderne, celle que Foucault, l'une des deux seulement, l'autre est une voie sans issue, c'est celle que Foucault nomme en l'opposant, à ce qu'il nomme maintenant la voie révolutionnaire ou la voie juridico-normative. C'est la même chose. Intéressant. Disons de type rousseauiste, ce qu'il nomme la voie radicale, et par voie radicale, il entend la voie libérale. D'un côté, la voie révolutionnaire, on ne peut pas ne pas entendre une sorte d'autocritique là-dedans, la voie révolutionnaire ou juridico-normative, et d'un autre côté, la voie radicale, qui est la voie libérale ou néolibérale. La voie révolutionnaire, qui est celle de ce que Hayek nommait le rationalisme constructiviste, est un échec. Cet échec se nomme, et Foucault a des termes très très durs dans le cours là-dessus, le socialisme. Il n'y a pas d'autre choix, il dit, il n'y a pas de politique socialiste. C'est écrit noir sur blanc dans le terme. Alors, c'est intéressant, c'est un cours qu'il prononce au moment même où la venue de la gauche au pouvoir en France était hautement probable, disons. Et au moment, en plus, où le néolibéralisme, à travers la politique du gouvernement Barre, avait connu un succès, disons, pour le moins mitigé, en termes, en tout cas, de popularité et sans doute aussi de réussite. Il n'y a donc pas d'autre voie c'est ce que Foucault déclare explicitement dans ce cours, que d'emprunter la voie libérale et de substituer à la conception juridique de la liberté, illustrée par la thématique révolutionnaire des droits de l'homme, une conception technologique qui a le mérite de ne pas empêcher la conquête d'espaces nouveaux de liberté, même si cette conquête, et là on retrouve bien sûr Foucault, s'inscrit elle-même dans un dispositif de pouvoir. Le libéralisme, dit-il, je cite, « ce n'est pas une idéologie, c'est d'abord une technologie de pouvoir. » Il ne s'agit évidemment pas, de la part de Foucault, sans ça il aurait vraiment renoncé à tout ce qui le fait, d'adhérer à l'image naïvement satisfaite que le libéralisme a de lui-même lorsqu'il croit être la seule philosophie politique compatible avec la liberté. Ce serait oublier, d'une part, que la liberté, pour ainsi dire, sourd de la société, sous de multiples figures, d'autre part, que cette liberté dont le libéralisme est à la fois, je cite Foucault, consommateur et gestionnaire, que cette liberté s'inscrit, elle aussi, dans le cadre d'une raison gouvernementale qui a, elle aussi, des aspects insidieusement oppressifs. Je cite, « Libéralisme et technique disciplinaire sont deux choses parfaitement liées. » Mais le mérite du libéralisme aux yeux de Foucault, le libéralisme qui s'avère de la sorte être, je cite, l'expression est très intéressante, « un instrument critique de la réalité », son mérite est qu'il permet d'échapper à ce qui est le vieil ennemi de Foucault, la grande illusion juridique et étatique selon laquelle les conditions de la liberté doivent être créées d'en haut et selon les voies du droit étatiquement géré, bien entendu, et pas de ce droit sans auteur étatique dont il était question tout à l'heure et qui constitue précisément ce droit social, en quelque sorte, qui constitue un des éléments si intéressants de la société d'information telle qu'elle s'est développée. Le libéralisme conçoit la liberté, presque fini, comme un processus de négociation ou de transaction, et c'est là, du point de vue de Foucault, son absolue supériorité sur la gouvernementalité juridique et étatique. D'où cet enthousiasme pour le libéralisme comme rupture avec la conception étatique de la liberté et des droits. La liberté, c'est, dit-il, quelque chose qui se fabrique à chaque instant, et il reconnaît au libéralisme le mérite d'avoir reconnu cette vérité. Ce que je souhaite suggérer, et c'est ici que je me distancie un peu de Foucault, y compris de son enthousiasme pour le libéralisme, zèle de néo-converti, c'est ce que je voudrais suggérer, c'est qu'il y a un lien entre l'antijuridisme de Foucault et, enfin, il est évident d'ailleurs, et sa découverte du libéralisme. Ce qu'il séduit dans le libéralisme, c'est qu'il substitue ce qu'il nomme, Foucault, la véridiction du marché à celle du droit et de la souveraineté, faisant de ceux-ci, pour la première fois dans l'histoire moderne, des réalités secondes, sinon même secondaires. Le libéralisme invente ce que Foucault appelle, j'ai déjà cité l'expression, une politique de société. Sous-entendu, ce n'est pas une politique d'État, c'est une politique de société. Cette politique, elle consiste à, je le cite, introduire la régulation du marché comme principe régulateur de la société. C'est bien le libéralisme, effectivement. En lieu et place, et c'est ça qui plaît à Foucault, du droit et de l'État. Ou plutôt, le libéralisme fait du droit et de l'État l'objet et non plus la source d'une politique que Foucault nomme une politique active sans dirigisme. Je cite, « Faire sortir de la véridiction du marché la juridicité de l'État, c'est ça le miracle allemand. » C'est une phrase noire sur blanc dans le texte. « Faire sortir de la juridiction du marché la juridicité de l'État, c'est ça le miracle allemand. » Mais il y a, et c'est ce que j'aimerais souligner pour terminer, quelque chose de très paradoxal dans cette rencontre de Foucault avec le libéralisme, et pas seulement en raison des combats passés de Foucault aux côtés de Sartre et des maoïstes français qu'il a menés. Pas seulement à cause de cela. quelque chose de paradoxal sur le plan, disons, théorique, qui m'importe plus ici que l'apparent, l'apparent revirement politique que semble présenter ces cours. Foucault croit trouver dans le libéralisme, je l'ai dit, et c'est incontestablement ça qui motive cet intérêt, voire cette adhésion, il croit y trouver un outil dans son combat contre le modèle du droit et le modèle, pour lui, les deux vont de pair, le modèle de la souveraineté. Combat qui, à mon avis, détermine la conception de ce que, l'orientation de ce que Foucault nomme la biopolitique. La biopolitique, c'est avant tout la politique comprise comme n'étant plus une politique d'État et comme n'étant plus une politique qui se fait dans les formes du droit étatique. Or, c'est ce qu'il ne semble pas voir, le libéralisme est lui-même un grand consommateur de droits et, dans certaines de ses variantes au moins, d'institutions. Un auteur comme Hayek ne cesse de le rappeler, le marché suppose nécessairement des règles de juste conduite, c'est-à-dire un droit. Il suppose, j'emploie les termes même de Hayek, un nomos en l'absence duquel le marché serait incapable d'assumer ce rôle de véridiction, pour parler comme Foucault, que la pensée libérale lui confie. Pour le libéralisme, me semble-t-il, le droit est indispensable au maintien et à la formation de ce que Hayek appelle les ordres spontanés. Il n'y a pas de marché sans règles, sans normes, sans institutions. Sans doute, ce droit que réclame le libéralisme n'est pas celui que vise la critique foucauldienne du modèle de la souveraineté étatique. Et on serait fondé à dire que la distinction que fait Hayek dans droit, législation et liberté, par exemple, entre nomos et thésis, entre un droit qui est, dit-il, plus ancien que la législation et un droit qui est produit par le législateur, on pourrait dire que cette distinction nourrit à sa manière la critique que mène Foucault. Mais en tout cas, je retiens que le libéralisme conserve une place éminente à un droit, même si c'est vrai, un droit autre que le droit étatique. Il n'en va pas ainsi chez Foucault, pour qui, semble-t-il, le droit, jusqu'au bout, au fond, se confond toujours avec la production étatique de normativité. Pour le dire autrement, il me semble qu'il y a à tout le moins une tension entre le soupçon que Foucault, une ligne de force constante chez lui, fait peser sur les actes juridiques. En effet, les actes juridiques qui s'inscrivent toujours, pour lui, dans une configuration de savoir-pouvoir, ne font toujours que sanctionner et stabiliser sur le mode de la normalisation. La norme, c'est toujours la normalisation. Sanctionner la prééminence d'un certain type de gouvernementalité ou de savoir-pouvoir. Donc, il y a tension entre le soupçon qui continue et ne cessera jamais de faire peser sur le droit et, par ailleurs, la reconnaissance de ce que la gouvernementalité libérale est, et il le reconnaît, puissamment, je reprends ces termes, consommatrice et gestionnaire, non pas seulement de liberté, comme il le dit, mais aussi de droit. Peut-être pourrait-on même hasarder l'hypothèse que c'est ce que Foucault nomme lui-même la politique de société, y compris dans ses figures libérales, car il aurait dû aussi peut-être s'intéresser à ce que l'on appelle l'État social. C'est la politique de société qui implique la promotion du droit. D'un droit qui n'est sans doute pas, et là on ne peut que lui donner raison, le vieux droit de la souveraineté, comme l'appelle Foucault, mais qui n'en est pas moins du droit, et qui, comme tel, élève des prétentions normatives. Des prétentions normatives qui, bien sûr, peuvent être infondées, biaisées, mais on ne peut pas, néanmoins, ces prétentions normatives du droit s'en débarrasser simplement en faisant peser sur elles le soupçon de ce qu'elles participent d'une stratégie qui peut être d'ailleurs une stratégie sans stratège, de normalisation. S'il en est ainsi, et pour ma part, je souhaite qu'il en soit ainsi, la microphysique du pouvoir, l'étude des régimes de gouvernementalité ou dans laquelle Foucault nous a tant appris, en tout cas je parle pour moi, doit, devrait s'ouvrir au questionnement normatif qu'elle prétendait écarter ou, à tout le moins, reconduire à sa vérité. Alors la deuxième, c'est facile à répondre. Les trois livres, les trois derniers livres de Foucault, enfin plutôt c'est un livre en trois parties, et même quatre avec l'introduction, La volonté de savoir, c'est une histoire de la subjectivité, peut-être pas de la conscience, mais une histoire de la subjectivité avec notamment une relecture décoiffante, si je puis dire, et des Pères de l'Église, qui est quelque chose d'absolument extraordinaire. Qu'il a d'ailleurs préparé dans la merveilleuse bibliothèque du couvent des Dominicains du Sochaux, auquel il a légué sa bibliothèque en échange, et tous ses papiers et toute son œuvre. Le fonds Foucault est détenu par les Dominicains. Amusant, hein. Enfin, détenu, pas détenu, parce que... public, il est accès public, mais confié à. Bon. Donc, oui, le dernier Foucault, et c'est malheureusement d'ailleurs à cause de cela, enfin malheureusement, qu'il a brutalement interrompu, il comptait y revenir plus tard, mais il n'y a pas eu de plus tard, qu'il a brutalement interrompu sa réflexion sur la gouvernementalité libérale qui est seulement, en fait, qui l'occupe seulement pendant une année, et puis ensuite, il repart sur le chantier de la genèse de la subjectivité, comment est né le moi, c'est tout simplement à ça qui est consacré, et comment est née la conscience, alors il est à travers une étude des philosophes stoïciens, puis des pères de l'Église, il examine comment progressivement s'est constituée, oui on peut dire, la subjectivité, une généalogie de la subjectivité, donc, et du coup il a abandonné le terrain des techniques de pouvoir qui était celui de ses travaux depuis dans la décennie précédente. Il comptait y revenir, il ne l'a pas pu.
Je crois que la question de la manière était sur la confiance.
En fait. Confiance.
Voilà, oui.
Excusez-moi, j'ai entendu conscience, non, c'est
confiance,
pour ça.
En fait, hein, comment,
alors bon, voilà. Rayetou, on gomme. Non, à ma connaissance, non, mais... on peut assez facilement reconstruire. Je l'ai dit d'ailleurs, c'était, je crois, ma première phrase. Si Foucault avait parlé dans ce séminaire, il vous aurait expliqué que la confiance, c'est une technique de pouvoir. Et je pense qu'il aurait été extrêmement intéressé par le développement d'Internet et il aurait sûrement produit des choses là-dessus. Et des choses qui, alors, à l'encontre de la confiance, que vous avez d'ailleurs... problématisé tout à l'heure. Vous avez même à la fin de votre exposé, monsieur Poulet, parlé précisément de cette confiance spontanée naïve qu'ont les usagers. Parce que ce n'est pas étatique, la confiance qu'ils ont dans le développement du marché de l'information, du marché mondial de l'information, et sur les raisons qu'il y a de mettre en question finalement cette confiance. Je pense que Foucault aurait tout à fait abondé dans ce sens et aurait certainement produit des analyses décapantes des nouvelles techniques de pouvoir qui s'exercent. Et quand on dit technique de pouvoir, derrière la technique, il n'y a pas forcément un acteur. Il n'y a pas forcément quelqu'un qui manipule, bien sûr, ce n'est pas du tout le style de Foucault, que d'imaginer toujours un des grands manipulateurs derrière. Non, des techniques de pouvoir qui, d'elles-mêmes, en quelque sorte, se mettent en place, et des techniques d'assujettissement. Qu'Internet soit aussi un lieu d'assujettissement, mais des deux. Et puis aussi, il aurait analysé, certainement, avec beaucoup d'intérêt, toutes les formes d'illégalisme que suscitent, mais ces illégalismes étant d'une certaine manière eux-mêmes solidaires de ce qu'ils sont censés dénoncer, enfin, je pense qu'il aurait certainement écrit, peut-être pas un livre, mais des articles, il y aurait eu des prises de position là-dessus, parce que c'est typiquement le genre de choses qui l'intéressaient. Sur la première question, je répondrai simplement que, au fond, ce que pour ma part je déplore chez Foucault, c'est que pour lui, norme, il l'a toujours entendu au sens de la normalisation. C'est-à-dire, Foucault n'a jamais voulu donner sa chance à l'idée qu'il puisse exister une normativité, qu'elle soit morale ou juridique ou autre, d'une normativité par rapport à laquelle les individus soient appelés à prendre position, que ce soit pour s'y conformer ou pour l'y contester, mais qu'il y ait en quelque sorte une dynamique autonome de la normativité. Pour Foucault, et ça, je crois que c'est l'héritage de son maître Canguilhem, dès son premier livre sur la naissance de la clinique, il analyse la constitution de la norme, mais toujours en termes de normalisation, et jamais au sens de exigence normative par rapport à laquelle on doit prendre position. Si vous voulez, en fait, moi je suis un vieux Kantien qui s'intéresse à Foucault, mais qui ne peut s'empêcher en quelque sorte, de s'insurger contre le refus de la prise en considération, mais qui est systématique et constant, d'où, par exemple, le fait qu'il n'a jamais pu trouver dans le droit quelque chose qui mérite d'être intéressant. Le droit est... Pardon ? Oui ?
Je vous en prie.
Foucault était à contre-emploi là, à ce moment-là, parce qu'il ne prétendait pas du tout être sociologue, il ne l'était pas. Il était historien, certes, et un historien ô combien novateur et brillant. Mais même le sociologue, là je viens sur un terrain qui n'est pas le mien, mais si on prend un auteur comme Weber, qui n'est quand même pas un petit sociologue, il y a chez lui où alors, est-ce que c'est parce qu'ils étaient allemands et que les Allemands ont toujours le kantisme chevillé, non pas au corps, mais à l'âme kantisme luthérien, alors ça fait... toujours est-il quelqu'un comme Weber accorde... Il y a une tentative de rendre compte dans ses réflexions sur le droit de création révolutionnaire de la Constitution, enfin, dans toute la sociologie du droit de Weber, il y a une prise au sérieux qui, en même temps, ne va pas... Bien sûr, va de pair avec une mise en perspective, un regard sociologique distant, mais une prise au sérieux de l'exigence normative impliquée par le droit. Le droit n'est pas seulement une technique de mise en ordre, même si, bien sûr, il est aussi cela, il est aussi un outil de normalisation. Ce qui m'étonne, c'est que Foucault n'a jamais vraiment donné sa chance à la normativité, d'emblée la question était réglée pour lui, c'est ça que je veux dire. Il n'a même pas pris la peine de se dire, mais est-ce que c'est seulement de normalisation qu'il est question, ou bien est-ce qu'il y a autre chose? Sauf, et c'est pour ça que ça m'a intéressé, au moment où il se met à s'intéresser aux ordos libéraux, où là il n'y a rien à faire, pour les libéraux, les néolibéraux, le droit On en pense ce qu'on veut, hein, mais le droit, c'est pas seulement du semblant. Le droit, c'est la condition nécessaire de l'existence du marché. Et par conséquent, le libéralisme, forcément, en tout cas ce type de libéralisme, accorde une grande importance au droit et, dans le cadre de l'ordolibéralisme allemand, aux institutions conçues comme des régulateurs nécessaires du libre fonctionnement du marché. Et là, il me semble que Foucault entre dans une sorte de contradiction qu'il aurait dû traiter, mais il n'en a pas eu le temps, ou bien d'autres chantiers l'ont appelé. Il aurait dû traiter cette contradiction qu'il y a entre son déni du droit, si je puis dire, et sa découverte de ce qu'il peut y avoir de positif et de fécond dans un courant pour lequel le droit est quelque chose de fondamental. Celui dont je n'ai pas parlé.
Est-ce que vous avez retrouvé certaines traces, et à ce moment-là, où on pourrait retrouver les fondements de cela dans le dépassement de la subjectivité Voilà, c'est une question.
Je ne sais pas, oui, je ne sais. Enfin, je suis un peu hésitant là-dessus, bien sûr. Alors, sans doute, il y a cette fameuse interview sur la révolution iranienne, n'est-ce pas, hein, qui a tellement fait jaser, où Foucault explique que Khomeini, c'est extrêmement important parce que c'est la réapparition de quelque chose qui nous faisait défaut. Enfin bref, on voit apparaître la dimension du religieux comme quelque chose de fondamental. Si on s'en tient quand même à l'essentiel de l'œuvre publiée, j'ai quand même pas l'impression, bien sûr, il y a cet intérêt appuyé du tout dernier Foucault pour les pères de l'Église, mais qu'il lit quand même d'une façon pour le moins hétérodoxe, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, je ne suis pas un grand spécialiste, mais enfin, tout de même, c'est une patrologie, j'allais dire, qui sent un peu le fagot, si je puis me permettre. L'intérêt de Foucault pour la subjectivité, implique une certaine réévaluation de la spiritualité et pour ce qu'on pourrait appeler une politique de l'esprit. Est-ce que c'est aussi déterminant que cela? Je serais un peu circonspect, disons. Et puis, en tout cas, l'œuvre de Foucault à laquelle je me suis surtout intéressé, c'est vrai, celle qui m'a surtout attiré, cette réflexion sur les techniques de pouvoir à partir de Surveiller et punir, et dans les cours des années 70, publiés depuis, donc les Sécurité, territoire, population, naissance de la biopolitique et le troisième, j'ai oublié le titre, bon, peu importe, c'est quand même, je crois, très largement déconnecté de ça.
On en reste là sur Foucault?
Il faut.